Un quoi, mais... Mais où suis-je? Je suis mort, là, non? Oh, drôle d'endroit. Tout est noir, mais sans sembler sombre. Je ne sens aucun sol. On dirait d'ailleurs qu'il n'y a ni mur, ni meuble, ni rien autour de moi, mais sans pour autant que cela paraisse vide et oppressant. Je ne ressens rien, rien qui me trouble en tout cas, ni faim, ni crainte, ni doute. C'est donc ça d'être mort? Putain, c'est chiant. Et je fais quoi maintenant? Je dirais bien, à part me regarder les orteils, mais je n'ai même plus de corps. Et je parle tout seul. Y a quelqu'un?
Suite à cette dernière question, l'âme de Berlu fut comme happée, entraînée à travers le temps et l'espace de ce plan étranger, auprès d'un esprit qui, ainsi, l'avait contraint à une convocation immédiate. Berlu se retrouva donc face à pas moins qu'une divinité. L'un de ses esprits protecteurs, veillant sur la création du plus puissant d'entre eux, celui qui sacrifia jadis son existence pour générer l'univers physique. Le dieu auquel notre défunt druide faisait face était une silhouette de forme plus ou moins humaine, lumineuse comme un soleil dans l'obscurité du néant, et titanesque, imposante comme une haute montagne. Et c'est alors, chers amis, que du haut de sa majesté et de sa sagesse intemporelle, l'esprit ancestral prit la parole de sa voix retentissante.
Salut Berlu, alors comme ça t'es mouru? Eh ben, qui l'a cru?
Hein?
Je suis Rodalex, le dieu du temps et de la destinée. Et vu que niveau temps, tu as comme qui dirait épuisé le tien, la procédure veut que tu viennes à moi pour que nous décidions de la suite en ce qui te concerne.
Certes, mais pourriez-vous s'il vous plaît me renseigner un peu avant? Où sommes-nous? Quel est cet endroit? C'est que... Bon, les druides sont aussi astronomes à leurs heures et je me pose tant de questions sur l'univers, vous comprenez? Est-ce que c'est un recoin de notre galaxie ou alors sommes-nous dans un autre système de crème solaire?
Imagine l'univers comme un lieu clos, et comme une vaste sphère contenant tout ce qui existe, et en dehors de laquelle se trouve la même chose qu'à l'intérieur. L'univers est un espace limité par l'infini, vois-tu.
Il est illimité, donc?
Oui et non. Pourquoi tant d'humains s'obstinent-ils à vouloir comprendre ce que leur esprit n'aura jamais la capacité de mesurer, à se convaincre qu'absolument tout est constant ou unique? Vous êtes vraiment de bien curieux symbioses cellulaires, vous autres.
Et vous, assez terre-à-terre, finalement.
Mais bref, les curiosités scientifiques de Berlu étanchées, nos protagonistes purent revenir sur le dossier de notre ami en question.
Donc, voilà, je suis mort, d'accord. Mais quelle suite proposez-vous au trépas, la réincarnation?
Ah mais tu déconnes, non, ça n'existe pas, ça, hein. Des âmes peuvent se produire à volonté, ça ne coûte rien et ça ne pollue pas. Donc on s'en balance, y a pas besoin de les recycler, hein. En plus, t'imagines le boulot de gestion pour nous, là, derrière, hein. Les files d'attente, s'il y a pas assez de natalité pour suivre, hein. Et puis déterminer qui mérite de se réincarner en ci ou en ça, déjà que les notions d'incarnation supérieure ou inférieure sont de toute façon très relatives selon les individus. Non, hein, ce système, c'est de la merde. J'ai d'ailleurs du mal à croire que tant de mortels puissent gober ce truc.
Que va-t-il m'arriver alors?
Eh bien, je vais te le révéler, Berlu. Le grand secret de l'après-vie, la destinée, le sens de la vie physique et de ce qui lui succède. Vois-tu, après la mort, les mortels vont...
C'est que... Mon monde est en grand danger et cela me tracasse beaucoup, vous comprenez? J'aimerais vraiment pouvoir terminer ma mission. Je trouve trop bête la façon dont je suis parti.
Ah ça, mon coco, je l'entends souvent, hein. Si j'en ressuscite un, j'ai pas fini de me faire emmerder par les suivants.
Mais comprenez-moi, Rodalex, je suis mort en tentant de contrer un démon.
Un démon? Qu'est-ce?
Oui, un démon, un esprit, comme vous, je crois. Voyez-vous, il est venu dans mon monde voici une année et s'amuse depuis à posséder le corps de nombreux êtres vivants pour semer le mal partout où il passe. Moi, j'essayais juste de...
Ah merde, mais ça fausse les données, cette histoire. Attends, hein, je consulte le registre. Ah oui, en effet. Ah ben voilà, c'est ce que je craignais. Hein. Encore un coup de Mont-Saint-Clair.
Mont-Saint-Clair?
Eh oui, c'est l'un d'entre nous, les esprits originels. Mais bon, lorsque vint l'univers physique, il...
Décida de jouer avec pour satisfaire son plaisir sadique. Oui, il m'a raconté.
Et il ne s'arrêtera pas avant la destruction de toute vie, tatata. Mais bon, voilà, c'est un esprit très puissant, ça, mon petit Berlu. Hein? Avais-tu, avant de mourir, déjà la moindre idée de comment le vaincre?
Je dois bien admettre que non, mais je vous en prie, dites-moi comment et renvoyez-moi dans mon monde. Je veux vraiment tenter quelque chose.
Ah bah oui, il est vrai que personne parmi les mortels ne pourrait l'arrêter, hein. Seul un dieu le pourrait, mais on n'a pas le temps déjà. Et puis, les heures sup ne sont pas encore reconnues dans nos lois, donc c'est un petit peu pourri, quoi. Bon, bah bon, voyons un petit peu ce que disent les projections d'avenir pour ton monde. Bon, quand comprends bien que nous laissons la primeur au libre arbitre des êtres vivants en temps normal, mais il arrive parfois que nous devions, nous, les dieux, influer sur le destin de quelques mortels pour réharmoniser les mondes dévastés par des fléaux non naturels.
Tels que ceux causés par des démons, comme ce Mont Saint-Clair.
Voilà. Alors, je vois ici que si je t'aide à chasser le démon hors de ton monde, ça n'en posposerait en fait l'apocalypse que seulement 2 siècles ensuite. Parce que bon, ben, Mont Saint-Clair reviendrait en force pour se venger, tout ça, tout ça. Sauf si...
Sauf si...
Oui, oui, la simulation est concluante. Une certaine action future de ta part pourrait réharmoniser les événements à moyen terme. Mais cette action ne sera pas jouasse, hein, je te préviens. Et je ne peux même pas te la décrire, hein, ça fausserait de fait l'événement charnière en question, ce qui n'est pas vraiment souhaitable. Hein.
Peu importe, il y va manifestement de la survie de tous.
Bon, bon. Alors en somme, Archibald Berlu, pour que je t'aide à sauver ton monde, il faudra que tu fasses un serment, que tu acceptes aveuglément et de subir une épreuve dans l'avenir, et que tu ne fasses pas aux instructions que je te donnerai dans l'immédiat de l'instant à venir de suite.
C'est d'accord, Rodalex. Je vous écoute.
N'oublie jamais ceci, jeune barbu. Un jour, loin dans l'avenir, alors que tu cueilleras des fraises sauvages, 3 personnes ridiculement accoutrées, dont une à roulette, te surprendront et ton abdomen sera percé. Tu ne devras cependant pas tenter de sauver ta vie, mais, et c'est très important, impérativement empêcher ces intrus d'obtenir ce qu'ils seront venus chercher.
Et comment ferais-je ?
Il te faudra jouer l'idiot en déclarant que tu l'as mangé. Cela suffira pour les gaver et ils laisseront tomber. Ah bah tiens, ça rime, c'est cool. Bon, mais cela dit, est-ce que c'est bien compris ?
Tout cela me semble assez étrange, mais soit, je l'ai mangé, ça ne semble pas compliqué. Oui, je ferai ainsi quand le moment viendra, vous avez ma parole. Alors, Rodalex joint ensemble ses 2 pouces et ses 2 index, ceux-ci se pinçant mutuellement. Puis, il écarta lentement les mains l'une de l'autre, dessinant dans l'espace, entre chaque extrémité du pincement, un étrange fil argenté. Lorsque celui-ci fit une longueur d'un demi-mètre environ, le divin titan tendit ce fil à Berlu. Et alors que le fantôme de notre ami le toucha, tout lui parut clair, comme un souvenir nouveau désormais gravé dans son esprit, la marche à suivre pour atteindre son but. Et un tourbillon bleu mauve apparut soudain, happant le défunt druide autant que le fil argenté, et les entraînant hors du monde des dieux, dans un autre plan et une autre temporalité, bien loin de là. Bonjour, Maître Proutlard.
Oh, ça alors ? Archibald ? Mais je te croyais mort ! Et 8 jours après, te revoilà !
À nos 2 amis de s'installer à table, et autour d'une assiette de soupe chaude, Berlu expliqua son incroyable aventure dans l'au-delà.
Je dois dire qu'il est assez illogique que tu puisses avoir tous ces événements en mémoire, puisque tu ne disposais pas d'un cerveau physique pour en contenir le souvenir au moment où ça s'est passé. Mais soit, une autre chose m'étonne davantage.
Quoi donc, Maître ?
Eh bien, tu n'as pas changé. Et normalement, quand un magicien meurt et qu'il revient à la vie, j'aurais pu penser que tu serais ressuscité en tant que Berlu le Blanc. Mais il n'en est rien, apparemment, puisque tu portes toujours ta vieille toge sous mon clair.
Je ne suis pas au courant. Où avez-vous entendu parler de ça ?
Ou peut-être que c'est parce que tu n'étais pas Berlu le Gris avant ta mort. Sous mon clair ne doit pas compter.
Mais Berlu interrompit l'intense et captivant questionnement de son vieux mentor en sortant de sa poche un étrange objet. Oui, le fil argenté que Rodalex lui avait tissé et avec lequel il fut renvoyé dans l'univers physique. Archibald expliqua l'utilité de l'objet, les dessins que le dieu lui avait transmis par la pensée, et au vieux maître Proutlard de confier ensuite à son élève, et à la demande de ce dernier, une petite pile de parchemin vierge, un étui de cuir, ainsi qu'une aiguille à coudre. Berlu se servit de l'un des feuillets pour rédiger une courte liste qu'il tendit à son mentor, lui demandant de bien vouloir lui fournir les ingrédients qu'elle mentionnait. Et alors que le vieux druide farfouillait bruyamment dans ses armoires...
Hey merde !
Le jeune disciple, lui, s'appliqua à coudre ensemble les parchemins entre les 2 feuillets de cuir et à l'aide du fil enchanté.
C'est un bien étrange processus que tu m'as décrit au cours de cette ellipse narrative, Archibald. Je n'avais jamais entendu parler de ce type de sort. On voit bien qu'il n'est pas terrestre. Mais j'ajouterai que tu n'es pas très doué en couture, hein. Tes points sont très irréguliers.
Certes, mais il importe surtout que ça tienne.
D'accord, mais je vais être obligé d'en tenir compte pour ta note de travaux manuels, désolé.
Ce n'est pas grave, il y a situation plus urgente. Avez-vous réuni tous les ingrédients?
Oui, enfin, tous, sauf un.
Oh, lequel?
Tu vas rire, la racine de cactus polaire, l'œil de lynx à dents de sabre, le sperme d'hippocampe d'eau douce castrée et la plume de crête d'aigle chauve des plaines australes, j'en ai en quantité, pas de souci. Par contre, le dernier ingrédient...
Vous n'avez pas de farine?
Hé, hey, que croyais-tu? Je te rappelle qu'on sort d'une disette pas piquée des vers. Les dernières moissons n'ont pas encore été suffisantes que pour déjà refaire de la farine un produit courant. D'où d'ailleurs la pénurie de pâte à alphabet.
Mais vous avez des grandes quantités des autres produits par contre. Logique.
En revanche, il doit me rester du sucre en poudre quelque part. Tu penses que ça fera l'affaire?
Berlu suivit la préparation de son souvenir, celui qui le marqua alors qu'il toucha le fil argenté. Il broya les ingrédients ensemble dans un mortier avant d'ajouter le mélange au sucre en poudre dans une grande jatte. Une fois terminé, notre ami se saisit d'une large poignée de la poudre bleu pâle obtenue et se tenant face à la table à présent débarrassée, il souffla brusquement dans sa paume pour en éjecter un épais nuage poussiéreux. Peu à peu, le nuage de particules retomba, se déposant sur la surface de la table pour former des zones d'épaisseur variable. Et alors, en se tenant à la bonne distance, l'on pouvait voir, oui, ces retombées de poudre, tantôt denses et épaisses comme tantôt faibles et transparentes, semblaient dessiner une carte géographique.
Formidable ! Ça marche ! Cette carte va nous révéler où se trouve...
Maître ! Oh, désolé, j'en avais dans le nez. Et puis, bon, la loi de Murphy obligeait que ceci arrive. Que veux-tu?
Et à Berlu de réitérer l'opération, tandis que le maître Proutlard tenait trois couches de mouchoir sur son nez. La carte fut donc à nouveau dessinée, et nos amis purent l'étudier attentivement.
C'est ahurissant, cette carte est d'une précision redoutable. Elle retrace tout le parcours de Marie-Gabrielle depuis son départ de Voisinia. Un trajet en pointillé nous indique qu'elle visite les bleds alentours, sans doute pour recruter de nouveaux morts-vivants, comme me l'avait expliqué le fonctionnaire.
Et le X, là, c'est pourquoi ça veut dire qu'il y a un trésor dans ce petit village paysan?
Non, maître, je pense que c'est la position actuelle de mon centlaire. D'ailleurs, regardez, ensuite les pointillés nous indiquent qu'il se rendra dans un autre hameau, plus au nord-est, avant de retourner à Voisinia. Si je pars maintenant, je pourrais sans doute le surprendre aux portes de la cité, à son retour.
Et à Berlu de se hâter, d'emporter quelques objets utiles à son voyage et, bien évidemment, le manuscrit vierge qu'il venait de confectionner. Notre ami fit ses adieux à son maître et s'en courut à l'extérieur de la maison, fendant l'air dans ce froid crépuscule en direction de Voisinia.
Je vois, l'élève part à l'aventure, d'accord, mais c'est le vieux maître qui peut se taper tout le ménage, hein. Ah ben merci. Et en plus, un peu de poudre est tombé dans ma soupe, ça me l'a gâché, je parie, hein. Quoique, je ne sais pas si c'est le sucre ou le sperme d'hippocampe d'eau douce castrée, mais ce petit arrière-goût ne gâche rien en fait.
Notons une chose, chers auditeurs. Alors que Berlu marchait d'un pas vif, il prit néanmoins la peine de vérifier le contenu de sa besace pour s'assurer que la précipitation ne lui avait rien fait oublier. Hein. Et c'est alors qu'il remarqua que, certainement pendant qu'il eut le dos tourné quelques instants plus tôt, son facétieux mentor avait incrusté quelques mots sur la couverture de son livre relié d'un fil d'argent. Il était en effet, sur celle-ci, tracé à l'encre noire les mots « La porte ». Et juste en dessous se tenait une petite mention supplémentaire qui fit sourire affectueusement notre ami. Par Archibald Berlu, druide certifié. Et pendant ce temps, non loin de Voisinia, ville dont les remparts rocailleux se voulaient être l'extension d'une petite montagne, pic nain donc, adjacent à la cité susdite, et au pied duquel se trouvait un minuscule village. Peut-être vous en souvenez-vous, ô mes passionnés spectateurs, oui, c'est le patelin qui verra naître Gaspard le mineur et son fils Amédée. Mais ce n'est pas pour eux que nous sommes là cette fois, non. Car, en ce hameau d'ordinaire paisible, se tramait en ce moment de cette époque préfacienne de sombres événements. Les volets de toutes les maisons étaient clos et les portes verrouillées. Un étrange cortège en approche avait terrifié les habitants locaux, panique dont résulta un empressement de leur part lorsqu'ils n'avaient pas tout simplement fui à s'isoler, à se protéger, à faire les morts. Les morts, oui, car le cortège en question en était on ne peut plus représentatif. Une armée de cadavres méphitiques, très nombreux, mais néanmoins raisonnablement récents, considérant que les récents fléaux avaient massivement garni le cimetière les mois précédents. et à la tête de ce pestilent escadron scabreux, marchait fièrement la jeune fille, aux yeux luisants de vert pâle, souriant sardoniquement, le menton tenu bien haut et bombant sa petite poitrine, tandis que les lambeaux gris qui la couvraient de peu et ses longs cheveux châtains virevoltaient au vent comme au ralenti. Pénétrant dans le cimetière local, un modeste talus aux abords du patelin, elle leva le bras pour faire s'immobiliser les troupes beuglantes qui déambulaient derrière elle. Son ordre d'inertie exécuté, il lui prit soudain de frapper violemment le sol de son poing pourtant chétif. Mais sous le choc néanmoins immense qui en résulta, les stèles et les pierres tombales volèrent dans les airs à plusieurs mètres, retombant bruyamment dans les alentours, et l'une d'elles allant même jusqu'à faire s'effondrer la moitié d'une chaumière qu'elle avait percutée. Peu le savent, mais dans cette chaumière, et alors tuée par la chute de la pierre tombale qui écrasa sa maison, vivait la seule pâtissière du village. Et il n'y en eut jamais d'autre, et donc plus personne pour confectionner de doux desserts sucrés dans ce hameau. Et sans cela, 30 ans plus tard, une certaine mère n'en serait jamais venue à expérimenter l'achat de quelques bananes pour égayer la faim d'un certain repas, et l'incident de la guêpe tropicale aurait été évité, la banane infectée étant dès lors jetée, car invendue et défraîchie. Mais revenons plutôt aux événements du cimetière, car des tombes désormais béantes sortaient alors, maladroitement, d'autres défunts tout juste chassés de leur torpeur. Marie-Gabrielle fit se dissoudre 3 d'entre eux d'un seul geste de la main. Oui, les vieux cadavres, les morts d'avant les fléaux, ceux des mineurs oxys par le grisou ou dans un éboulement de galerie, et que leurs os brisés ne tenaient plus debout. Elle renvoya par contre les autres grossir les rangs de son bataillon. Voilà maintenant que notre démon dans une enfant incarnée dirigeait une armée de près de 800 cadavres, soit un peu plus du double des effectifs qu'il avait pu réveiller à Voisigna seul 9 jours plus tôt. Marie-Gabrielle d'ailleurs retournerait sans tarder à Voisigna, et elle ferait payer à la populace l'affront qui fut fait à son autorité, et les dépouilles nées de la guerre seraient ensuite recrutées. Puis elle ferait le tour du pays, et du monde par après, la planète entière, qu'elle abandonnerait enfin à la mort et au silence, lorsque les zombies auraient de même dévoré toute vie. Lorsqu'Oléogorgon, récemment forcé de sortir de son hibernation de plusieurs siècles, et convaincu d'insatiété par l'influence de Mont-Saint-Clair, aurait suffisamment creusé la terre pour faire s'entrechoquer les continents et libérer les feux souterrains. La troupe reprit donc sa marche infernale, semant derrière elle des flaques de baume pestiférés, des dents ou des morceaux de doigts comme d'oreilles que la gravité appelait à elle sans grande insistance. Et c'est ainsi, à pas lents, que la légion léthargique et son général déguisé en donzelle foulèrent le sol en direction du sud-ouest, vers la cité aux deux sphinx. Le lendemain matin, nous sommes dans l'hôtel de ville de Voisigna, où se trouvait Berlu qui avait pu, comme il l'espérait, arriver en avance.
Elle est revenue ! Elle est revenue, la vilaine fille ! Ça arrive en direction de la grande porte, et ça a beaucoup de morts derrière elle, oui mon ami ! Je vous l'avais dit, sa promesse de retour, elle a tenu.
Allons, allons, restez calme. Rassurez-vous, échantillon de la population de la ville présente en ces lieux pour une réunion de crise. Restez à l'abri dans l'enceinte de la cité, je m'occupe de tout. Ceci dit, capitaine de la milice locale qui est aussi dans cette pièce, je me tourne à présent vers vous.
Et je constate que vous vous tournez vers moi. Terminé, à vous.
Vos hommes ont-ils terminé de condamner la sortie secrète qui donne sur la falaise ?
Oui, la sortie secrète qui donne sur la falaise en dehors de la ville est condamnée par des piles de roches et de gravats liés avec du ciment. On est certain que ni la sorcière, ni aucun de ses sbires ne passera par là. Au fait, mes hommes ont trouvé ceci dans une galerie. Cela vous appartient, je crois. Terminé, à vous.
Ça alors, la dague enchantée. Excellent. Merci, capitaine de la milice locale qui, depuis mon arrivée hier soir, m'aide à organiser la contre-attaque. C'est une bonne surprise de récupérer cet objet, et cela pourrait même être un atout. Mais assez parlé. Je me rends à l'entrée de la ville, comme convenu. Et vous, tâchez de protéger les citoyens au mieux si jamais j'échouais.
Je vous en prie, monsieur Berlu, ramenez-moi ma petite en vie.
Oui, pardon chers auditeurs pour ces répliques fort peu naturelles parce que fortement descriptives tout ça, mais bon, voilà, après la scène précédente, rappelez-vous celle qui était très longue et exclusivement narrative, j'avais moins besoin d'une petite pause, hein, alors donc au personnage de se démerder un peu pour compenser mon absence d'explication en voix off, des explications sous forme de répliques, hein, voilà, puis bon, merde, hein. Mais bref, nous retrouvons donc notre ami druide, quelques instants plus tard, à une dizaine de mètres de la porte d'entrée de la ville, alors qu'une ombre lointaine, à l'horizon, annonçait l'approche de Mont-Saint-Clair et de ses troupes. Berlu se pencha vers le sol et y posa le manuscrit vierge intitulé « La Porte » après l'avoir ouvert en son milieu. Ceci fait, il le recouvrit délicatement de la poussière sablonneuse qui constituait le sol gelé, afin de le dissimuler entièrement. Et se relevant, tenant la dague enchantée dans sa main droite, il recula de quelques pas et attendit calmement que son adversaire se manifeste. Et un bon quart d'heure plus tard, imposé par le pas lent des zombies, enfin, la fillette possédée, en tête de sa légion, se tenait face à notre ami, à quelques décamètres de distance.
Ainsi donc, tu n'es pas mort. Ta persévérance est aussi surprenante qu'amusante, petit druide. Peut-être Oliogorgon n'était-il pas encore assez éveillé, pas assez vivace, et qu'il t'aura manqué. Mais je sais qu'il sera plus efficace aujourd'hui.
Et un grand fracas se fit entendre dans le dos de Berlu. Oui, le ver géant venait de sortir du sol, au pied de la montagne, à quelques décamètres de l'entrée de la cité. Le long brick titanesque qui se trouvait donc là, enfonça alors sa tête dans la dite muraille pour y percer un couloir parfaitement rectiligne, avant de retourner lentement sous terre, faisant trembler le sol. Heureusement cependant, sans que la poussière recouvrant le livre dissimulé, ne bougeât suffisamment que pour en dévoiler la présence.
Comme tu le disais, mortel, les sorciers apprécient les mises en scène terrifiantes. Aussi, je montrerai à ces misérables que tu tentes de protéger que leurs défenses sont vaines face à moi.
Cependant, le bruit assourdissant de la perforation du col montagneux avait alerté la dite populace, laquelle accourait justement cet instant par l'entrée fraîchement percée, les miliciens armés de leur épée et les citoyens de divers outils. Mais tous se tenaient là, bravement, prêts à en découdre pour protéger leurs proches et leurs foyers. Berlu, pour en revenir à lui, profita de la surprise provoquée chez Mont-Saint-Clair par l'arrivée de cet attroupement pour furtivement sortir un étrange objet de sa besace. Archibald avait bien connu Mouloud, son camarade de cour. De nombreuses fois, il l'avait vu fabriquer ses étranges ceintures, et il avait même reçu quelques explications de sa part quant au fonctionnement de celle-ci. Aussi, à tout hasard, notre ami eut-il pris soin, en quittant la maison de son maître la veille, d'emporter la ceinture explosive que Mouloud y avait oubliée avant son départ pour l'Est. La fillette possédée tournait lentement le regard vers Berlu, l'air un peu hébété, tandis que notre ami terminait de régler le détonateur. Et ensuite, du plus vif élan qu'il put prendre, le druide lança l'objet, loin derrière la gamine désormais circonspecte. La ceinture retomba en plein milieu des rangs pourrissants de la Légion, et le feu parla à nouveau contre les chairs mortes. Seule une centaine de zombies fut mise hors service par cet attentat. Cependant, la pluie de boyaux et de cervelles qui eut lieu suite à la déflagration fit perdre soudainement toute discipline aux morts survivants. Oui, les zombies se mirent à se ruer sur les organes bien juteux qui gisaient autour d'eux et s'en firent un festin, se chamaillant le moindre bout de tissu. Et Mont-Saint-Clair alors bouillonna soudain de rage. La frénésie de ces unités était telle et leur nombre si grand qu'il ne pouvait en un seul instant les rappeler à l'ordre. Le démon redirigea son regard, furieux cette fois, vers notre ami Berlu qui lui était triomphant.
« Te crois-tu si fort, mortel? Pauvre imbécile que tu es! Je vais profiter de cet intermède pour diriger vers toi toute ma concentration. Je vais t'offrir une mort atroce, une vraie cette fois, et ta carcasse, s'il en reste assez, viendra rejoindre mes rangs. »«
J'ai toujours la dague, petite. Approche donc, viens régler ça au corps à corps, et pas comme tu l'as fait l'autre fois, comme une lâche. »
Ah, cette dague ridicule, tu n'as toujours pas compris. Bien misérable, j'accepte ton défi.
Et Mont-Saint-Clair, dans son corps d'enfant, s'avança vers le druide d'un pas décidé. Notre ami barbu avait feint l'innocence pour attirer son adversaire vers lui, alors que le livre ouvert se trouvait entre deux. Mais, rendu trop confiant par la réussite de son plan, Berlu commit un impair.
Adieu, Mont-Saint-Clair, et au plaisir!
Le démon s'arrêta net, à seulement quelques pas du manuscrit, fixant Berlu d'un regard à la fois étonné et méfiant. L'esprit originel s'interrogea. Comment Berlu pouvait-il connaître son nom? Seul un autre esprit pouvait le lui avoir dit. Mont-Saint-Clair jamais avant n'était venu sur cette terre, il était inconnu. Et alors, il fut évident, chers auditeurs, qu'une intelligence aussi ancienne et au fait des procédures divines que l'était celle de Mont-Saint-Clair ne pouvait dès lors plus être bernée. La fillette diabolique scruta lentement le sol et remarqua la légère irrégularité située entre ses pieds et ceux de Berlu. Aussi, elle remonta lentement un regard dédaigneux vers ce dernier, et tout en émettant un grognement sauvage, elle leva brusquement la main et attira violemment notre druide abasourdi vers elle, en l'empoignant par le col, lui qui désormais se trouvait du mauvais côté du livre.
« Bien tenté, mais tu ne peux me vaincre, tu n'es rien !»«
J'existe, moi, c'est toi qui n'es rien !» Parasite.
sous les yeux consternés de la population voisinienne, et même aussi de ceux des deux sphinx devant l'arche, Berlu était tenu en respect par la poigne de la jeune fille asservie à Mont Sainte-Claire, laquelle lui arracha la dague des mains pour la jeter en arrière. Cependant, notre ami druide n'était pas prêt à se déclarer vaincu, non. Un second échec lui parut absolument impensable et lui allait de la survie de son monde. Et donc, tentant le tout pour le tout, Berlu initia une feinte et regarda par-dessus l'épaule de la gamine en criant
« À vous, Rodalex !»
À la mention de ce nom, le regard de la fillette passa de la furie à la consternation. Elle ne put s'empêcher de vivement regarder derrière elle, balayant du regard sa horde de zombies, cherchant parmi eux quelques lumières vives ou autres signes de l'avancée de son plus vieil ennemi. Berlu, lui, profita de la diversion pour lui décrocher un coup de talon dans l'articulation du genou et alla posséder de basculer en avant. Agrippant ensuite la nuque de l'enfant, le druide d'un geste vif la bouscula en direction de l'irrégularité, quitte à ce que la main de la fille lui déchira le col de sa tunique qu'elle tenait fermement, tandis qu'elle bascula et sans qu'il fût de fait lui aussi tracté. Et il suffit alors que l'un des pieds de Marie-Gabrielle toucha le livre pour que le sort s'amorçât enfin. Le manuscrit se mit à luire puissamment, et la surface des pages ouvertes changèrent de texture. La forme du livre semblait se muer en un cadre, une fenêtre, un rectangle biscornu ouvrant le sol sur des cieux d'un autre monde, et dont on voyait toujours l'horizon lointain, d'où que l'on se tienne. Nul élément physique, pourtant, ne semblait être présent dans la dimension alors ouverte. Aucune terre, aucun astre, seules des nuées magnétiques aux sombres couleurs changeantes étaient perceptibles dans cette dimension spectrale. Et un vent violent se leva d'un coup, une aspiration, et Marie-Gabrielle, qui se tenait juste à côté du livre, fléchit, elle seule, harcelée par le siphon qui l'attirait vers l'ouverture béante.
Je ne sombrerai pas seul, petit druide. Tu viendras aussi, si ce n'est elle.
Avançant avec peine, d'une lenteur presque inhumaine, marchant quasi sur place tant l'aspiration était devenue puissante, la jeune fille possédée tentait néanmoins toujours d'approcher Berlu. Les haillons de la gamine se mirent à s'effiler à vue d'œil, les lambeaux d'étoffe grise s'étirant derrière elle en direction du portail jusqu'à ne plus ressembler qu'à de fins filets dont les mailles se disloquaient et avant qu'il n'en restât plus aucun. Ses cheveux plaqués en arrière dessinaient comme une lame ondulante qui semblait sortir diagonalement de l'arrière de sa tête. Même la peau de son visage était tirée, ses yeux mi-clos par les paupières inférieures qui remontaient quand celles du haut étaient retroussées à fond. Et c'est de la moitié visible de ses iris, verdoyants et lumineux, affichant une expression intraduisible, que Marie-Gabrielle dévisagea une dernière fois Berlu avant que l'aspiration n'eût raison de ses forces et qu'elle ne disparût, entière et avec l'intrus en elle, dans le cadre du manuscrit, livre qui se referma sitôt qu'elle fut tout engloutie. Sur cette dernière action, la tempête avait cessé et le calme était revenu. Les zombies qui avaient échappé à l'explosion étaient redevenus d'inertes cadavres et les oiseaux alentour reprirent leur chant. Berlu ramassa calmement le manuscrit redevenu inactif et l'ouvrit par curiosité. Il constata que tous les liens mémoriels et donc semi-physiques qu'avait pu avoir Mont Sainte-Claire avec l'univers matériel s'étaient étalés dans les pages du livre sous forme d'une encre verte très sombre. Mais au grand étonnement de Berlu, alors qu'il feuilletait les pages du livre apaisé, il s'avéra que cela s'était automatiquement produit d'une façon incroyablement structurée. Toutes les parcelles de l'esprit du démon avaient été divisées et rangées en sections, sous forme de chapitres, et qui plus est, dans une langue et un alphabet qu'il pouvait lire, oui, comme si une puissante intelligence invisible avait agi lors du processus, comme si l'action de capture avait été réalisée par la grande rémanence créatrice elle-même. C'était là une magie d'une telle puissance, d'une telle efficacité et d'un tel raffinement que Berlu n'en revenait pas et ne pouvait trouver, par son esprit simplement humain, d'explication nette à ce résultat. Il lui apparut en tout cas que les dieux n'étaient pas les dieux pour rien face à une telle enivrante perfection. Il fut hélas cependant à noter que la magie divine déclenchée par le sort d'emprisonnement, fruit du fil d'argent enchanté, avait été d'une telle intensité que des dommages collatéraux n'avaient pu être évités, bien que tous l'ignorassent. Voyez-vous, la terrible onde de choc, la résonance si colossale émanant de l'aspiration, avait créé un étrange phénomène atmosphérique dans les cieux de cette région. Oui, cette fameuse anomalie qui dispersera la destination de plusieurs sortilèges dans l'avenir, tels que le sort de transformation porcine de Marianne ou le maléfice d'éveil du nécromancien. En outre, une femelle écureuil enceinte, vivant dans un arbre voisin, fut si perturbée par les radiations magiques alentour qu'elle donna plus tard naissance à une portée mort-née, à l'exception d'un seul, l'un de ses enfants, le seul survivant, et qui aura la particularité de naître albinos et fort peu craintif. De bonnes conséquences sont cependant à souligner, chers auditeurs, car oui, nonobstant, je vous le rappelle, le fait que les zombies privés de leur esprit meneur s'étaient vus retomber à l'état de simples cadavres, Oliogorgon, le grand vert, retomba, lui, dans le sommeil que Montsantelaire l'avait forcé à quitter. Il resta donc en hibernation, non loin de là, quelque part sous la petite montagne qui bordait les murailles de Voisinia, ce pic longeant le hameau des mineurs. Quoi qu'il en fût, la population de la cité en question, constatant la réussite du plan de Berlu, se laissa envahir par une liesse bienvenue. Pour sa part, Berlu, bien que soulagé par l'accomplissement manifeste de sa quête, n'exprimait aucune joie. Il ignorait que la fillette serait elle aussi aspirée dans la dimension spectrale, et il fut sincèrement chagriné par cette perte inattendue. Il se tourna donc vers la foule, cherchant du regard le père de la petite pour lui demander pardon, mais il s'avéra que, dans l'action, celui-ci avait reçu un fragment d'un tibia en plein dans le crâne. Oui, oui, voilà, ce pointu morceau d'os avait été éjecté par la force de l'explosion de tout à l'heure, et voilà, ben ça l'a tué, donc. Et le bonhomme gisait donc mort, là, affalé sur le sol avec une expression d'incrédulité figée sur le visage. Et quant à la mère de Marie-Gabrielle, eh bien, il fut alors mentionné par quelques-uns des badauds présents là qu'elle n'avait, en fait, pas survécu à l'épidémie de grippe de l'année précédente, oui. Et qu'elle avait d'ailleurs même fait partie de la première génération de zombies, ceux qui avaient envahi Voisinia, là, avant d'être détruite par un groupe de miliciens la semaine d'avant. Donc ben voilà, ben, Berlu n'eut plus à se soucier de ce détail, et puis donc s'en aller festoyer avec les autres citoyens voisiniens. Lesquels, cela va sans dire, comptèrent partout son exploit durant les jours suivants, et lui forgèrent une réputation quasi légendaire. Légendaire, même si, bon, cela fut un petit peu atténué par l'annonce qui avait été faite à cette même époque du mariage royal, qui était alors en préparation.
Et le lendemain, je quittai la ville en emportant le livre, celui-ci soigneusement enfermé dans un solide coffret métallique que m'offrirent les voisiniens. Je ne manquais par ailleurs pas d'emporter la simple récompense que je demandais aux habitants, à la place de toutes les richesses qu'ils m'avaient proposées et dont je n'ai pas voulu. Je ne demandais finalement qu'une boîte de pâtes alphabet pour les offrir à mon cher vieux maître Proutelard dès mon retour chez lui, ainsi que l'annulation de ses dettes en passant.
Ah, c'est dans ces moments-là qu'on se dit que l'enseignement est un beau métier.
Alors que je quittais la ville, les ouvriers voisiniens étaient au travail. S'ils avaient décidé de conserver la nouvelle entrée creusée dans la muraille par Oliogorgon, ils rebouchèrent néanmoins le trou qu'il avait laissé dans le sol en y enfouissant les nombreux cadavres entassés à l'entrée de la ville, et cela fit naître d'ailleurs la petite colline qui dissimule ce qui devint l'entrée secondaire et rectiligne de Voisinia. Le surlendemain, après donc être passé chez mon mentor, je retournais vivre dans ma grotte et j'y entreposais le coffre, en sûreté, bien loin de la connaissance des hommes. Car sait-on jamais que ce démon pût être libéré s'il arrivait quelque chose au grimoire nommé la porte. Je décidai donc de consacrer ma carrière à trouver un moyen de détruire définitivement ce livre, afin d'emmurer Montsantelaire dans la dimension spectrale, de supprimer sans danger cette porte, cet objet dont l'existence lui laissait sans doute une possible échappatoire. Au pire, peut-être créerai-je un jour une école pour former une nouvelle génération de druides, ou de sorciers, comme on a fini par les amalgamer les années passant, et ceci afin de veiller sur le livre pour qu'il ne tombe jamais entre de mauvaises mains. Alors d'ailleurs que je vous en parle aujourd'hui, et que cette histoire est loin derrière moi, je sais plusieurs choses maintenant que j'ignorais alors. Je fis, hélas, une terrible erreur en arrachant une page de la porte, même si mes intentions furent nobles. Car cette déchirure provoqua l'apparition d'une faille dans la zone spectrale. Fût-elle minuscule, elle suffit pour que le démon s'en échappe. L'instabilité de la faille la rendait inconstante, c'est-à-dire qu'elle ne débouchait ni sur un monde, ni sur une temporalité particulière. Ses paramètres mutaient constamment, et lorsque Montsantelaire l'emprunta, ce démon arriva sur Terre. Non la nôtre, mais celle des humains modernes, la vôtre, oui, vous qui m'écoutez. Et l'esprit malin s'immissa en plein Moyen-Âge européen. Il prit possession du corps d'un chef de guerre nommé Vlad Tepes et massacra avec une ivresse violente tout au long de sa vie terrestre, jusqu'à ce que son esprit soit arraché à ce corps par l'ouverture du livre, lorsque Marianne l'invoqua malgré elle, dans son sommeil, lorsque sa joue fut en contact avec l'encre verte et la réveilla par son corps en vie. Mais sachez-le à tout hasard, durant sa vie terrienne, Montsantelaire avait cependant pu, et contre toute attente, engendrer une descendance.
Voilà, voilà, pardon de vous couper, merveilleux Berlu, mais vous me dites que Vlad Tepes, lorsqu'il procréa, était sous la domination d'un esprit démoniaque venu d'une autre dimension.
Hélas, c'est la vérité, monsieur.
Ah bah putain, je suis donc le descendant d'un démon. Ah bah j'en reviens pas, mais notez, ça explique bien des choses, non ?